I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes en 92, à 6 jours de Noël, le 18 décembre exactement. Stéphane Guy et Geoffroy Garretier qui sont à mes côtés ne sont alors que de jeunes jouvenceaux. Geoffroy Garretier travaille au JDD, le journal du dimanche. Et Stéphane Guy, lui, rêve de s'acheter une Twingo. Alain Roche est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a 24 ans.
J'avais une AX rouge à l'époque.
Une AX rouge, ce qui est encore mieux. 24 ans pour Alain Roche, ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Désormais brillant défenseur du Paris Saint-Germain. Et la dernière journée, avant la trêve, propose une affiche qui n'est déjà plus une affiche comme les autres. Paris Saint-Germain, Marseille. Et là, on parle du Paris Saint-Germain de Canal, hein, propriété de la chaîne depuis 18 mois, avec Michel Denisot à sa tête, qui affiche de grosses ambitions, et de l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, qui est déjà au sommet. Double champion de France, qui a perdu la finale de Paris un an et demi plus tôt, qui s'apprête à gagner, mais on ne le sait pas à ce moment-là, bien sûr, qui s'apprête à gagner la Ligue des Champions contre Milan à Munich. Paris est troisième, Marseille est cinquième, c'est donc un match au sommet, hein, même si Nantes et Monaco sont en tête du classement. Et surtout, bien surtout, ce match est considéré avec le recul, 27 ans plus tard, comme l'acte de naissance de la haine sportive entre les deux clubs. Il faut dire que ça a été un match très très chaud, on va y revenir avec vous. L'avant-match déjà avait été animé. Vous vous souvenez peut-être, Arthur Georges qui avait dit « on va leur marcher dessus », Gignola qui avait dit « ce sera la guerre », Tapie qui avait soi-disant mis les journaux dans le vestiaire, Angloma dira plus tard que c'était une légende, mais en tout cas, la pression était montée avant le match. Est-ce que vous vous souvenez de ce contexte, Alain Roche ?
Je m'en souviens, oui, très bien, parce que c'était la très grande affiche, en tout cas, pour ce Paris Saint-Germain. C'était une équipe de Marseille qui nous permettait de nous tester aussi, de savoir quel niveau on pouvait avoir face à un ex-finaliste de la Ligue des Champions. Le contexte est particulier et surtout, je connaissais quasiment la totalité de ces joueurs qui constituaient cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je connaissais leur mental, leur état d'esprit. Et on savait tous qu'ils arriveraient avec le couteau entre les dents.
Et ces déclarations, justement, d'Arthur Georges, on va leur marcher dessus, tout ça, vous y avez assisté quand vous avez lu ça? Vous vous êtes dit, oulala, qu'est-ce qu'il nous dit, Arthur? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ou est-ce que vous étiez, vous aussi, dans cet état d'esprit, on va leur rentrer dedans?
On était extrêmement motivés, puisque les supporters étaient omniprésents aussi pour nous rappeler que c'était un match important pour eux. Ces déclarations ne nous ont pas plus perturbés qu'autre chose, non, bien au contraire, peut-être que certains joueurs, oui. Peut-être David Ginola s'était mis une pression supplémentaire lors de ce match-là. Mais on était assez confiants sur la capacité de pouvoir renverser cette équipe de Marseille. Ça n'a pas été le cas.
C'était pas habituel quand même, Alain, d'entendre Arthur Georges dans ce registre-là. J'ai pas souvenir d'autres exemples.
Moi, je ne le connaissais pas bien, ça faisait simplement 6 mois que je travaillais avec lui, donc je ne connaissais pas bien le personnage, je savais ce qu'il avait fait déjà dans son club précédent. Oui, c'était peut-être aussi une forme de nous motiver, mais on n'avait pas besoin de ça. Je ne pense pas qu'en tout cas, en voyant le match, que ça nous ait perturbé ni annihilé, bien au contraire.
Geoffroy, vous étiez donc déjà journaliste, je l'ai dit à l'époque, au journal du dimanche. Vous vous souvenez également de cette montée en puissance? Je parlais d'acte de naissance de la rivalité un petit peu haineuse entre Paris et Marseille. Est-ce que vous aviez senti ça avant le match?
Bien sûr, mais c'est ce qui m'avait moi vraiment marqué, c'était les déclarations des Parisiens, d'Arthur Georges notamment, dans le journal Le Parisien, avec, entre guillemets, on va leur faire la guerre, ça va être l'enfer, on va leur marcher dessus. C'était vraiment surprenant. Ça collait pas d'abord avec l'image d'Arthur Georges dont parlait Alain, ça collait pas non plus avec l'image assez polissée du PSG version Canal+, et ça collait pas non plus avec l'intensité, le niveau d'agressivité des classicos de la saison précédente. Moi j'avais vu les deux premiers donc de l'ère Canal, un 0-0 assez pénible à Marseille au mois d'août 91 entre les deux équipes, où là on sentait qu'il y avait une patte Arthur Georges. C'est-à-dire que l'équipe elle était vraiment organisée de manière très rigoureuse, avec un 4-4-2 vraiment très très bien en place. Ça a changé des autres années, mais c'était purement sportif. Il y avait quelque chose de sain. Et là, on passe directement dans le registre du guerrier, de l'agressif, et on va le voir pendant le match. Du malsain, à ma grande surprise, et je pense à celle de tous les spectateurs.
Avant de parler du match à proprement parler, il y a un contexte également dont il faut que l'on parle. C'était il y a 27 ans et Bernard Tapie avait des problèmes avec la justice.
Déjà,
ça bouge pas beaucoup. Et il avait un procès. Pour rappeler le contexte quand même important, qui était Bernard Tapie à l'époque, en avril 92, donc quelques mois plus tôt, il était devenu ministre de la ville du gouvernement Pierre Bérégovoy. Mais un mois plus tard seulement, il avait été contraint de démissionner car il était mis en examen dans l'affaire Toshiba France. Mise en examen, démission, c'était la règle que se donnaient les ministres à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ce 18 décembre, donc quelques heures seulement avant le coup d'envoi, on apprend qu'il bénéficie d'un non-lieu. Du coup, Charles Métry, qui est l'un des deux commentateurs avec Thierry Gilardi de la rencontre, lui pose la question juste avant le coup d'envoi. Écoutez la réponse de Bernard Tapie.
C'est une vraie grande nouvelle. Effectivement, à 5 heures, j'ai eu le non-lieu, après lequel je courais tant pour démontrer que j'étais pas si mal qu'on l'avait raconté. Mais ça a été un moment dur, vraiment. C'est pour ça que, par rapport à cet événement-là, pour moi, quoi qu'il arrive là, je marquerai cette journée d'une pierre blanche.
Voilà, si vous entendez beaucoup de bruit derrière, c'est que pendant que Bernard Tapie évoque ce non-lieu, le coup d'envoi a été donné. Et juste, petite précision, quelques jours plus tard, le 24 décembre, donc vraiment 6 jours plus tard, il va retrouver son portefeuille de ministre, Bernard Tapie.
Oui, ce qu'on sait, c'est vrai que le temps a passé et cette époque est revenue un peu en lumière avec les déclarations récentes de Marc Frattani, qui était l'ancien assistant parlementaire et l'homme à tout faire de Bernard Tapie à Marseille. Il a parlé d'achat de match, notamment de l'achat d'un arbitre d'un OM-PSG. Alors, M. Girard, qui était l'arbitre de l'époque, a démenti. En revanche, ce qui bruissait déjà depuis longtemps, c'est que l'OM ne respectait pas forcément toutes les règles à l'époque. Et Tapie nous fait croire, ou essaie de nous faire croire, que tout va mieux pour lui. Et on se rappelle que 6 mois plus tard, ça sera l'affaire VAOM et le début d'une descente aux enfers judiciaire, et pour l'OM, et surtout pour Tapie.
Alors, justement, le match va démarrer. On a parlé du contexte, de ce contexte-là judiciaire pour Bernard Tapie, qui est plutôt positif pour lui.
Il faudrait faire 2304 podcasts pour revenir sur tout ça.
et donc, le contexte, on va dire, de violence annoncée, on va pas être déçu. Ça va commencer, j'ai regardé le match hier à nouveau, par un énorme tacle de Laurent Fournier sur Dimeco. 3 minutes plus tard, Dimeco part tête contre tête contre Fournier. Il va y avoir 33 fautes dans cette première période. L'arbitre Michel Girard parlait après, a posteriori, d'une boucherie, qu'il n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous avez le souvenir de cette première période de malade, qui est vraiment considéré aujourd'hui comme le summum de la violence dans la Division 1 et la Ligue 1 historiquement?
Je m'en souviens très bien, oui. On connaît les débuts de match. Il faut être présent physiquement. Il fallait répondre à l'agressivité des Marseillais, aux provocations aussi que nous avions données avec les déclarations d'Arthur Georges et de David Girola. Donc il fallait être à la hauteur. Donc on savait que ça serait un combat. Ça l'a été au détriment du jeu, du spectacle, sur un terrain catastrophique. Il faut le faire remarquer. Ça ne nous a pas aidé non plus pour développer du jeu, surtout quand il fallait revenir au score. Mais c'est vrai que c'était une bagarre, une guerre de tranchées. Tout le monde y allait de son agression, même moi. T'es pas un garçon extrêmement violent, mais même je me souviens de cette sortie sur Barthez où je l'agresse, mais
on va y revenir.
Souvent ça brille.
On va y revenir en détail, juste sur les compositions d'équipe. Il n'y avait pas que des poètes. Je vais vous citer pas toutes les équipes, mais les joueurs un peu durs, on va dire, qu'il y avait dans chacune des équipes. Du côté de Marseille, il y avait Marcel Desailly, Bernard Cazeni, Basile Boli, Éric Dimeco, Jean-Jacques Edli, qui avait été au dernier moment rajouté par Raymond Goethals pour muscler le milieu de terrain.
Par Raymond Goethals, vous êtes sûr?
Oui, Goethals ou Bernard Tapie, mais ça c'est un autre débat. Et puis Didier Deschamps, qui n'était pas
aussi,
non plus...
Aussi, c'était pas pour être...
qui laissait pas sa part au chien. Et puis côté Paris, Francis Liasser, qui avait été titularisé pour la deuxième fois de la saison, simplement préféré à Comboiré. Alain Roche, donc, qui n'était pas qu'un poète. Ricardo, non plus. Patrick Colléter, Laurent Fournier, Vincent Guérin. Voilà, pour vous dire qu'il y avait quand même des joueurs pour aller un petit peu au mastic dans ce match.
Et il y avait une équipe de l'OM extraordinaire. Quand vous regardez les compositions d'équipe,
ah bah oui,
a posteriori, celle de Paris était en construction. On n'avait pas encore le fameux duo Weah-Ginola qui portera le PSG. C'est François Calderaro qui est l'attaquant.
Georges est blessé.
Du Paris Saint-Germain.
Ouais, Georges Weah
a été blessé. Mais l'équipe de Marseille, elle est juste énorme.
Il ne faut pas oublier qu'il y a Rudy Voller sur le banc de touche.
Ouais. Bah, c'est pas compliqué.
On avait le droit qu'à trois étrangers. C'est-à-dire que l'équipe de Marseille, c'est pas loin d'être une équipe de France, quoi.
Ah, enfin, vous rajoutez à ceux que j'ai cités, Franck Sauzet, Amédi Pelé, Boxic, donc
celle de Marseille, c'est pas mal. Celle de Marseille, en fait, si vous enlevez Cazoni et vous rajoutez Voller qui était sur le banc et qui rentre en fin de match, c'est celle qui va jouer la finale de la Ligue des Champions quelques mois plus tard contre l'AC Milan à Munich.
Alors, ce qui est un petit peu étrange dans l'organisation du match sur Canal ce soir-là, c'est que Thierry Gilardi à la fois fait des interviews à la fin d'ailleurs et fait l'avant-match sur la pelouse, ensuite il monte pour commenter le match, il commente avec Charles Bietri, mais qui n'est pas à côté de lui, qui est à côté de Bernard Tapie et de Michel Denisot. Mais Michel Denisot va prendre très peu la parole. Bernard Tapie, en revanche, prend la parole assez librement, président de l'OM, pendant le match. Et il va y avoir ce fameux tacle, vous l'avez tous vu si vous suivez le foot depuis longtemps, ce tacle de Dimeco, invraisemblable, qui aujourd'hui, soyons honnêtes, vaudrait un rouge direct et 5 ou 6 matchs de suspension, qui va valoir un jaune à Rick Dimeco. Et Bernard Tapie, spontanément, prend la parole en direct sur l'antenne de Canal, juste après ce tacle.
La serre face à Amédi Pelé, Fournier face à Dimeco. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco, avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement.
Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Et vous l'avez pas entendu, mais Bernard Tapie à côté de moi disait c'est pas volé, parce que pas discutable comme faute.
Il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur.
Alors, donc c'est, voilà.
Quel argument
et voilà, donc Tapie en fait dit c'est justifié le jaune, mais là il dit il a pas blessé un joueur, il va faire un long développement en disant il dit vous allez voir, Fournier va se relever tout de suite, il a rien. En fait, mais c'est spectaculaire, mais il lui a pas fait mal.
Vous avez noté le encore dans le commentaire de Charles Bietri. Et pourtant on est c'est quoi, 20 minutes de match,
ouais, 20 minutes, ouais.
Voilà.
20 minutes.
Encore un tacle direct d'Imeco. Et après 20 minutes.
Mais cela dit, Dimeco Fournier, les deux s'en sont mis plein la tête. Hein. Laurent Fournier aussi allait au mastic. Hein.
Ouais, Laurent ne se laissait pas faire. On peut quand même, et je vous engage à regarder le match, signaler que les joueurs ne simulaient pas, se relevaient de suite, ce qui est moins le cas maintenant. Mais c'est vrai que Eric Dimeco, c'est un miracle qu'il ne soit pas expulsé dans cette première mi-temps, parce qu'on parle de ce tacle-là, il y en a eu 2-3 par la suite aussi, il doit vraiment être...
Laurent Fournier, il met du temps à se relever. Il se relève pas tout de suite. Il est vraiment sonné, il est soigné sur le bord du terrain. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, Hervé, quand vous dites que Tapie commente en live le match, il dit jaune celui-ci, puis rouge le prochain. Sauf que le prochain, il arrive quelques minutes plus tard et il n'y a pas rouge. Ouais, et c'est là le problème.
Et d'ailleurs,
il dit même si j'étais entraîneur, j'aurais sorti pour.
Oui, d'accord. Charles Bietri dit qu'en off, Tapie lui a dit si j'étais Goethals, j'aurais sorti Dimeco. Je sortirais Dimeco pour pas qu'il ne prenne un rouge. Comme quoi, il ne décidait pas tout, Bernard Tapie.
Il est sorti à l'heure de jeu, Eric Dimeco. Et il y a eu un palmarès des fautes à la pause de diffuser sur Canal, Hervé. 33 fautes. Et il y en avait 5 d'Eric Dimeco. Mais 5 fautes, c'est 5 fautes. Hein. C'est pas des accrochages de maillot.
Ah non, mais
c'est 5 cartons jaunes.
C'est quasiment des fautes qui vaut soit jaune, soit rouge à chaque fois. Match extrêmement violent.
Mais il n'y a pas que lui. Lui incarne ce match-là parce qu'il est allé au-delà de toute limite. Ouais. Mais chaque contact était, Alain le rappelait tout à l'heure, était d'une violence incroyable.
Évoquons, puisqu'on y est quand même.
Et l'arbitre a été catastrophique.
Voilà, Michel Girard qui expliquait d'ailleurs qu'il était parti dans l'idée de ne pas mettre de carton dans ce match parce que sinon il y aurait trop de problèmes. S'il avait arbitré avec les critères d'aujourd'hui, le match n'allait pas au bout. Hein. Il y avait 5 ou 6 rouges.
Bien sûr.
Mais d'ailleurs, il a eu peur. Non, justement, il aurait peut-être calmé un peu les ardeurs. On aurait peut-être vu un vrai match de foot.
Sauf que lui dit, Stéphane, il dit, au début, il espérait tenir le match. Et puis, quand il a vu le déroulement, il s'est dit, si je cartonne à tout va, on finira pas le match, en fait, puisqu'il n'y aura plus assez de joueurs sur le terrain. Non, mais, oui, et donc, du coup, il en devient, bien sûr, trop laxiste.
D'accord, mais on ne peut pas penser avant un match de se dire « je ne vais pas sortir de carton voilà. ». C'est impossible, je veux dire. C'est comme quand on est joueur de foot, on a
je
une
Je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça, en fait.
C'est une déclaration qu'il a faite.
C'est un fautif avec préméditation.
C'est comme nous, quand on a un scénario de match en tête avant le match, mais bon, en face, tu as une équipe qui te contrarie, donc il faut évoluer. Il aurait dû sortir ses cartons jaunes. Alors, en plus, après, ce n'est pas simple non plus d'arbitrer un match comme ça, entre les coups, les contestations, c'est parce que les joueurs ont été odieux avec l'arbitre aussi. Ouais. Il y avait 4-5 joueurs autour de l'arbitre qui le poussaient, qui l'haranguaient, donc c'est vraiment pas simple.
En seconde période, il y a à un moment donné une contestation pour une touche, c'est-à-dire que le ballon est-il sorti ou pas sur la touche. Il y a une minute quinze de contestation pour cette touche, avec des joueurs qui prennent l'arbitre, M. Girard, par le bras, qui tire le maillot, c'est invraisemblable. Hein.
Arbitrait l'OM, vous rappeliez la position dans le paysage social de Bernard Tapie à l'époque. Pour un arbitre, c'est une pression incroyable.
Alors,
je l'ai vécu
quand j'étais à Marseille. Hein. On voyait Bernard Tapie débarquer dans les couloirs, on allait dans le vestiaire des arbitres. Attention, hein. On sentait de l'angoisse chez les arbitres.
Mais moi, j'ai logique, pas compris pourquoi Alain, vous étiez rentré dans ce jeu-là. D'ailleurs, je crois que Patrick Colter l'a dit après le match, vous n'étiez pas armé pour ça. Le PSG a déjoué, en fait.
On n'était pas armé, mais à un moment, il faut répondre aussi aux provocations. Et l'air de rien, et je l'expliquais en début, c'est que le terrain n'a pas facilité les choses non plus. C'était incapable de développer du jeu. Je me souviens très bien, et ça se voit pendant le match, c'est que dès qu'on avait le ballon derrière, il fallait absolument trouver les attaquants, éviter et sauter ce milieu de terrain qui était extrêmement agressif, extrêmement compact, on l'a vu. Hein. C'était difficile de pouvoir le contourner. Donc, tactiquement, on savait très bien qu'il fallait jouer vers l'avant. Donc, on n'a pas pu développer du jeu.
Oui. Mais c'est vrai qu'avec l'avant-match, on se dit que Paris a voulu jouer au méchant. Et s'est aventuré sur un terrain où il n'était pas le meilleur.
Il n'était pas le meilleur, mais il n'a pas baissé la garde. Et ça, c'était quand même important. Et quand vous regardez ce match, j'engage tout le monde à le faire, c'est que la deuxième mi-temps, le PSG doit revenir au score. Voilà, on a les occasions franches avec Ginola par trois fois. On en parlera par la suite. Mais au-delà du contexte et surtout des coups qui sont répétés, et peut-être on se dit après, oui, ils étaient plus forts mentalement et physiquement. Mais moi, quand je revois le match, je me dis, on peut revenir et peut-être même remporter ce match dans la deuxième mi-temps.
On va parler un petit peu de foot, hein, match.
Juste une phrase de Goethals là-dessus. À la fin du match, il déclare, Goethals, vous voyez marcher sur la tête de Boli, Dimeco, Cazoni, de Saï. C'est ça un peu le problématique de ce match-là. Ouais. C'est que l'OM avait les armes pour répondre à ça.
Allez, parlons du jeu, parce qu'il y en a un petit peu entre 10 000 tacles et 10 000 fautes. Et un but assez rapidement, finalement, dans le match, à la 21e minute. C'est Boxich, hein, Alan Boxich, qui va le marquer. On va écouter en direct ce but sur Canal.
Tête de Boli, tête de Boxich, et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score après 21 minutes en première période du Alan Boxich.
Alors, ce but, il est marqué de la tête par Alan Boxich. Il y a deux duels de la tête, un premier entre Basile Boli et vous, Alain. Et c'est Basile Boli qui, d'ailleurs, un petit peu avec l'épaule.
Oui, c'est de l'épaule, oui. De réussite, mais bon, ouais. On s'est fait manger avec Ricardo dans le duel, bien sûr. Moi, je ne suis pas assez fort dans le duel avec Basile. Même s'il est en déséquilibre, il arrive à le remettre ce ballon involontairement de l'épaule. Et Boxic est seul, puisque Ricardo n'est pas au marquage. Donc, on est extrêmement fautifs, tous les deux, sur ce but-là.
Est-ce que ce but-là, il serait validé avec la VAR aujourd'hui? Le geste de Boli, il est assez douteux.
Peut-être pas. De l'épaule. On aurait regardé 10 000 fois les ralentis, on aurait vu effectivement une épaule de Boli.
Ce qui est intéressant, c'est la personnalité du buteur. Parce que Alan Boxic, au moment où il marque ce but, il n'est pas encore, j'ai envie de dire, hyper connu. Or, ça va devenir vraiment quasiment la star de l'OM cette saison. Il faut rappeler que l'année d'avant, il avait été recruté par l'OM, mais il ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait trop d'étrangers. Il avait été prêté un an à Cannes. Il revient, il s'impose tout de suite dans une attaque. Pourtant, il y avait une sacrée concurrence. Il succède, mais vraiment de manière hyper digne et plus que ça, à Papin. Et ça va être, j'ai envie de dire, la star de l'OM, encore une fois, jusqu'à Munich.
On est avant la loi Postman. Hein. On a le droit qu'à trois étrangers par équipe.
Exactement.
Ça fait simplement un an qu'on ne peut plus donner le ballon aussi au gardien.
Oui, exactement.
À l'époque, le gardien prenait le ballon avec les mains.
Sur les passes en retrait. Un petit mot sur Ricardo, qui n'est pas au duel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Alain, mais il avait perdu son père quelques jours avant.
Il était parti au Brésil pour jouer un match,
contre l'Allemagne. Il n'avait pas joué parce qu'on lui avait appris le décès de son père. Il était un peu perturbé ou pas, vous, dans le souvenir que vous avez?
Ricardo n'est pas démonstratif, donc on ne savait rien sur ce que pensait Ricardo. C'était d'une froideur incroyable. C'est pour ça qu'il était extrêmement rassurant et serein.
1-0 à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille. À la mi-temps, Michel Denisot est interviewé par Charles Bietri et il nous dit ce qu'il a pensé de cette première période.
Je dirais que pendant 20 minutes, on a vu des coups.
coup. Après, on a vu un but. Ensuite, le match a ressemblé un peu à du football, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de coups dans ce match. Bon, je pense que les statistiques seront suffisantes, que les images le sont aussi. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter dans ce sens. Et je regrette qu'un match d'un tel niveau, d'un sommet comme ça, donne une telle image du football.
Voilà, une mauvaise image du football, c'est ce que retient le président du Paris Saint-Germain à la mi-temps. La seconde période va être assez passionnante quand même. Toujours un petit peu violente, moins, mais beaucoup d'intensité. Un vrai gros match. Hein. Franchement, quand on regarde ça, on se dit... on a une image de ce match comme un non-match, quelque chose d'affreux. Il y avait quand même des choses intéressantes.
Oui, il y avait notamment la réponse effectivement du Paris Saint-Germain à Marseille. Alain, vous en parliez. Il y a eu plusieurs opportunités pour Paris pour égaliser, avec notamment Ginola qui a oublié une fois ou deux Calderaro. J'ai un souvenir en fin de match, je crois, d'un centre en retrait qui appelait but.
Il veut la mettre au fond. Mais...
Et voilà, non, c'est ça qui n'est pas effectué par David Ginola.
Ouais, il avait Calderaro dans l'axe tout seul. Il aurait fallu lui donner en un dixième de seconde et Ginola a choisi d'essayer d'éviter Barthez.
Il y a même un contre un entre Barthez et Ginola un peu plus tôt. Je crois que c'est Basile Boli qui revient pour tacler ce ballon. Après, David doit donner le ballon même avant de dribbler Barthez. Hein. Sur Calderaro, et après, c'est vrai qu'il rate sa frappe. Moi, j'ai une tête aussi, hein, à bout portant sur un coup de pied arrêté. C'est Barthez qui prend le ballon en pleine tête, donc il manque un petit peu de réussite aussi. Mais faut pas oublier que Boxic non plus a un contre un face à Bernard Lama où il fait un arrêt, mais décisif, incroyable.
Alors, on va les entendre à la radio. D'abord, ce face à face Lama-Boxic, c'est un arrêt exceptionnel de Lama. On l'écoute et puis on en parle un petit peu.
Et le revoilà, Sosé.
3 contre 2.
Ouais, avec Deschamps, Boxic qui s'était lancé dans le dos de Roche. Boxic qui a devancé Bernard Lama. C'est exceptionnel.
Ça sera peut-être le plus beau geste de la rencontre. Et balle de 2-0 quand même. Hein.
Ah ouais, et vous avez vu le visage de Boxic qui a crié de dépit, car jamais il aurait pu croire que Lama saisirait de ce ballon.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas en tête, je vais essayer de vous décrire cet arrêt de Lama. L'équipe de Paris Saint-Germain est assez déséquilibrée et Marseille se retrouve en surnombre.
Ils sont 3 contre 2.
Tout seul face à Lama. Lama sort de sa surface de réparation. Donc il sort de sa surface de réparation, il laisse Boxic le contourner et au moment où Boxic va marquer dans le but vide, Lama, qui a ses pieds en dehors de la surface, revient et va plonger et prendre ce ballon dans les pieds de Boxic. Arrêt incroyable.
Oui. Là, on est au sommet du Bernard Lama. Il va se blesser un peu de temps après, mais là, il est dans ses années exceptionnelles. C'était un chat.
Et au-delà de ça, c'est pour ça que moi, j'étais quand même un peu déçu du spectacle, même si vous dites, Hervé, qu'il y avait un peu de foot en deuxième mi-temps. On est quand même dans la meilleure période de l'histoire du foot français de club. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que cette saison-là, Marseille va aller gagner la Ligue des Champions. Le PSG sera en demi-finale de la Coupe de l'UEFA.
Ils vont battre le Real. Hein,
exactement, ils vont battre le Real. Ils vont être éliminés de manière assez injuste, comme toujours, par la Juventus. On a Auxerre qui sera également en demi-finale. Et l'année d'avant, vous aviez Monaco en finale de la Coupe des Coupes. Donc on pouvait imaginer un grand spectacle de foot. Et ce que sera d'ailleurs le match retour, même perturbé, au retour de Munich. Et là, quand même, on est quasiment que dans la guerre avec un terrain, Alain l'a dit, épouvantable. Quand on voit ce que fait aujourd'hui le jardinier du PSG, on se dit qu'on a vraiment changé d'époque.
Alors, la double occasion dont vous parliez, Alain, tout à l'heure, et votre tête arrêtée par Barthez, il y a deux occasions coup sur coup pour le Paris Saint-Germain qui poussent, hein, qui va s'en créer beaucoup, celle de Ginola un petit peu plus tard, mais surtout celle-ci. Là aussi, on va l'écouter. On est dans le milieu de la seconde période.
Ballon qui a ouvert le nez de Barthez sur une superbe tête de Roche.
C'est sur la même action.
Ce qui se passe, c'est que c'est assez marrant. D'ailleurs, vous faites la tête, Barthez prend la balle dans le nez, mais personne ne le voit. L'action continue. Ginola se retrouve 20 secondes après en contact avec Barthez et se percute. Et il y a une grosse échauffourée, un début de bagarre, parce que tout le monde pense que Ginola a ouvert le nez de Barthez, alors qu'il ne l'a pas touché, et que c'est vous, mais pas vous, le ballon qui lui a ouvert le nez. Donc on sent cette tension énorme avec la défense marseillaise qui est persuadée que Barthez a été agressé, et c'est vous qui avez propulsé ce ballon. Vous sembliez un petit peu culpabilisé en disant « j'ai raté une énorme occasion ». Honnêtement, vous faites une bonne tête, et voilà, elle est dans
le nez. Je suis au premier poteau, je me bats pour récupérer ce ballon, de devancer le défenseur. Non, je fais la tête comme je peux. Hein. Dans ces moments-là, vous réfléchissez pas trop, vous mettez votre tête en opposition, le ballon part où il peut. Hein. Et le problème, c'est qu'il est parti dans la tête de Fabien Barthez, qui a empêché ce but-là. Oui.
Le Paris Saint-Germain a eu l'occasion de revenir dans ce match.
On rappelle une chose, Hervé, quand même, par rapport à ces faits de match qui paraissent anodins. On est en décembre. Cette saison-là, l'OM sera champion de France, avant d'être évidemment destitué logiquement de son titre de champion, avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. La victoire valait 2 points.
Et deux sur Monaco.
Voilà, donc on est dans. Peut-être que ce match-là a décidé en partie du titre de champion.
Alors, on a parlé de foot là pendant 15 minutes. Il faut qu'on revienne quand même au tacle et un petit peu au baston, parce que c'était quand même l'un des gros éléments de ce match. J'ai parlé d'une échauffourée là, lorsque les Marseillais pensent que Barthez a été touché par Ginola. Et puis, il va y avoir le nouveau tacle de Dimeco où. Là, même les commentateurs de l'époque, avec le côté très laxiste de l'époque, pensent que Dimeco ne va pas échapper au rouge.
Caléraro en déviation vers Fournier. Poursuivi par Dessailly.
Dimeco, il y est. Oh oui. Dimeco est au vestiaire, à mon avis. Dimeco va partir au vestiaire, ou alors M. Girard va faire preuve de beaucoup de mansuétude.
Voilà, c'est une remise en jeu, en tout cas indiqué Michel Girard. Donc il y a un tapot d'Éric Dimeco. Voilà. Le Parisien
qui cherchait
à
comprendre,
et le geste de Michel Girard
en
terre. Remise
en jeu. On l'avait pas vu comme ça. Il y a eu un tacle, les non, deux mais... pieds décollés du sol, et l'arbitre dit touche.
C'est encore sur Laurent Fournier, une nouvelle fois.
Ouais, je crois. Ah bah.
Imaginez, vous vous rappelez des polémiques récentes autour de Karim Abed après le tacle de Mbaye Niang sur Kimpembe.
Kerrer.
Lors du PSG Rennes. Après un match comme ça, il faut se mettre 26 ans plus tard. Normalement, Michel Girard, il est au frigo. Il arbitre plus en Ligue 1 de l'année.
Et il était à un an de la retraite, hein, Michel Girard, quand il arbitre.
Non, mais à un moment, c'est même plus du laxisme. C'est hallucinant d'avoir
d'où les doutes autour de l'arbitre de ce match.
Il y a beaucoup de matchs qui étaient arbitrés.
Oui, non, mais là,
ça, à l'époque.
Là, Hervé,
il y avait beaucoup de doutes sur l'arbitrage.
C'est pas possible. C'est Charles Biétry qui dit là, il est au vestiaire. Il a raison. On pense tous la même chose. Il devrait être au vestiaire déjà depuis une heure. Il est au vestiaire. Hervé, et il n'y a rien, même pas faute.
Hervé, à l'époque, il y avait beaucoup, les arbitres avantageaient beaucoup les équipes qui jouaient à domicile. Là, c'était pas le cas. C'était Marseille qui se déplaçait. Donc, c'est vrai qu'on peut. Enfin, ça conforte un peu les doutes qu'on pouvait avoir sur certains matchs, ça c'est clair.
Et je vous renvoie, Hervé, à la lecture de la biographie de Marcel Desailly, qui est parue en 2002. Et j'ai eu un flash ce matin en repensant à... C'est un excellent livre. Hein. C'est sans doute l'une des meilleures biographies de footballeur qui a été écrite, parce qu'il l'a écrit en collaboration avec un journaliste du Monde de l'époque.
Philippe Broussard.
Ouais, c'est un bouquin remarquable sur la vie de Marcel Desailly. Et il parle de ce fameux PSG Marseille de 92, avec... des extraits qui parlent là il parle de l'ambiance, du contexte, etc. Mais il parle aussi du dopage, parce qu'il explique, c'est extraordinairement décrit dans le livre, la présence de tapis dans le vestiaire avant le match, qui fait silence et qui tend une boîte de comprimés à ses joueurs et qui demande à ses joueurs de prendre des comprimés. Et tout le monde est un peu interpellé, tout le monde se demande ce qu'il veut. Deschamps d'ailleurs interpelle Tapie, lui dit « Attendez, c'est quoi ce truc ?» Je lis le livre de Marcel Desailly. Ouais. Tapie lui répond « Prenez-en, faites-moi confiance. Vous avez vu ce qu'il y a marqué derrière ? Pas de problème. » Parce que derrière, il y avait marqué que c'était un usage qui pouvait être, à partir d'une certaine dose, considéré comme un produit dopant pour les sportifs. « Pas de problème, c'est une question de dosage, » répond Tapie. « Donne-moi ça si tu ne me crois pas. » Et Tapie avale un cachet, puis un autre, puis avec une bonne gorgée d'eau minérale pour montrer l'exemple à tout le monde. Et Desailly avoue, il dit, oui, j'ai pris un cachet ou deux, je ne sais plus. D'autres ont refusé, pourquoi pas moi ? Peut-être la confiance aveugle dans le service médical, peut-être la trouille de dire non, peut-être le sentiment d'être marseillais, donc invulnérable, sans doute tout cela à la fois, et je n'en suis pas fier. Mais il ajoute aussi plus loin, parce que c'est intéressant, il dit que lui n'a rien ressenti pendant le match, personnellement, il dit, j'ai pas eu le sentiment d'être un autre homme, de surperformer, d'être dans un état physique différent. Et il dit qu'il pense même qu'il ne peut donc s'agir pas d'un produit dopant, mais d'une sorte de placebo destiné à nous donner l'impression d'être imbattable. Et il y a eu un contrôle antidopage après le match, conclut Desailly dans ce chapitre qu'il consacre à cette affaire, et il dit négatif.
Ouais, et il dit, certains n'en ont pas pris, mais certains en ont pris beaucoup, non ?
Ouais, mais voilà.
En tout cas, ça rappelle. Il y a eu contrôle, ça donne une idée du climat ambiant autour de ce match.
Connaissant Tapie, on le pense effectivement capable d'avoir donné même des pastilles Valda et leur dire, vous allez voir, ça va vous.
Ou pas.
Voilà.
Il y avait beaucoup d'histoires qui circulaient à l'époque autour du Guron.
Là, c'est un témoignage. Ouais. C'est un témoignage dans un livre officiel d'un joueur qui était un joueur important de l'OM à l'époque et qui n'a jamais été depuis attaqué après, vous démenti.
Faut pas oublier que c'est énormément d'années, que vous avez une confiance aveugle, ce que disait Marcel, dans le staff médical, ce qui est normal. Chacun son métier, voilà. Donc vous faites confiance, donc vous prenez ce qu'on vous donne.
Enfin là, c'est tapis, hein.
Non mais d'accord, mais elles sont données par le médecin au départ. Donc on est obligé de croire, heureusement, que ces gens-là sont capables de nous donner des choses qui soient pas dopants, voilà.
Le match se termine sur le score de 1-0, victoire donc de l'Olympique de Marseille. Et interview de fin de match, on va écouter le tout jeune Fabien Barthez, hein, qui est titulaire depuis quelques mois seulement. Il a 20 ans. Et Didier Deschamps qui parle déjà comme aujourd'hui.
C'est sûr, ça a été un match très chaud comme tout le monde l'attendait. Bon, mais ça a été assez réglo quand même. Quelques chocs.
Bon, c'est vrai qu'on avait tous beaucoup de choses sur le cœur, parce que durant cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur nous, que ce soit par les Parisiens, même l'entraîneur, qu'on allait à la guerre et tout ça. Ben, je crois que Marseille a prouvé ce soir que quand on voulait jouer, on pouvait jouer, mais quand il fallait répondre présent sur le plan physique, ben, on était là aussi. Et je crois qu'on a remis un peu les choses au point ce soir.
On est désolé pour vos oreilles, hein. C'est Basile Boli qui criait derrière, qui était fou de joie. Vous étiez dans le vestiaire, vous me disiez, Geoffroy ?
Mais j'avais un papier à écrire pour le JDD, donc pour le dimanche. Le match était le vendredi soir, donc je vais dans le vestiaire du vainqueur, évidemment.
À l'époque, tous les journalistes allaient dans le vestiaire, hein, tranquillement.
Voilà, exactement. Et donc, j'arrive et donc on voit Goethals, absolument hilar, comme un maréchal d'Empire au milieu de ses grognards. Il tire l'oreille gentiment de Casoni, de Boli, etc. Il dit « Oh, on voulait leur faire la guerre, mais vous croyez qu'on fait la guerre et qu'on marche sur Casoni, Boli et De Sailly, impossible. » Voilà. Et évidemment, les Parisiens, dont Alain, faisaient triste mine.
Alors, après le match, Angloma, par exemple, a expliqué que Bernard Lama, qui était son ami, lui avait dit « mais je t'ai pas reconnu. J'ai l'impression d'avoir un étranger. » Et l'histoire raconte, je vous rappelle que c'est un match du mois de décembre, juste avant la trêve, l'histoire raconte que tout ce petit beau monde s'est retrouvé le lendemain à l'aéroport pour partir en vacances ensemble. Est-ce que c'était votre cas, Alain ? Vous étiez à Orly le lendemain, non ?
Ah non.
Parce que Bernard Lama expliquait ça.
J'allais directement à Bordeaux en voiture.
Ils sont retrouvés, voilà, vous étiez modeste. Ils sont retrouvés pour le Parisien, Marseillais, à Orly, par certains partageant même leur lieu de villégiature et continuant un petit peu, mais sur un mode plus tranquille. Je voudrais qu'on conclue ce match, peut-être, Alain, avec l'évocation des rapports entre les joueurs, justement. Notamment en équipe de France, parce que l'équipe de France à cette époque-là, c'était un gros noyau de Marseillais, quelques Parisiens. David Ginola, par exemple, qui avait du mal à faire son trou. Il y avait quand même cette haine dont on vient de parler depuis quelques temps. Est-ce qu'elle a contaminé un petit peu l'équipe de France, selon vous ?
En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti, parce que le fait d'avoir joué à Marseille, je connaissais quasiment les trois quarts de ces joueurs-là. Moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec eux. Le cas de David Ginola est un cas particulier. David est un des précurseurs, je trouve, dans le monde du show business, du football, dans le football. C'était un des premiers à faire des défilés de mannequins, à faire des photos. Et il y avait beaucoup de jalousie autour de David Ginola, qui dérangeait, et qui a dérangé beaucoup de monde, ce qui est bien dommageable. Mais j'ai pas ressenti que ça avait altéré nos relations et nos performances sur le terrain, le fait qu'il y ait ce conflit permanent entre les deux clubs lors de ces rencontres-là.
Il y a on aboutira quand même, c'est quelques mois avant France-Bulgarie.
Mais France-Bulgarie revoyait le match. Franchement, c'est à peu près du même acabit que ce match-là. C'est la guerre de tranchées. Tout le monde ne veut pas baisser pavillon.
Oui, mais David Ginola fait un scandale.
La non-qualification, c'est France-Israël, c'est pas France-Bulgarie. Voilà. Ah. Où on a sous-estimé cette équipe. Bah, on va pas parler de ça.
Ouais, mais, on fera des canals football classiques peut-être pour les grands matchs de l'équipe de France. Mais là, on va pas. Si on ouvre le chapitre France-Bulgarie.
Après, faut pas oublier que chacun défend son club, et sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Voilà, ben ce jour-là, il n'y avait pas d'amis, c'est pas pour ça qu'on n'est pas allé boire un coup ensemble.
Mais la question se posait, Hervé, quand même, néanmoins, pour l'avenir de l'équipe de France.
C'était le 18 décembre 92. Paris avait été battu par Marseille 1-0. On rappelle qu'il n'y aura pas de champion de France cette année-là, puisque le titre de l'Olympique de Marseille sera invalidé.
Parce que Paris refusera de prendre le titre.
Oui, exactement. Hein, et
qui aurait dû lui revenir. Ça devrait être un titre à donner au Paris Saint-Germain.
Et c'est Monaco qui ira jouer la Ligue des Champions l'année suivante.
Exactement.
Alors que Paris aurait dû y aller.
Exactement.
Merci, messieurs.
Ouais,
c'était le canal.
On n'a rien dit, les joueurs. C'est quand même assez incroyable.
Ouais, et ils ne voulaient pas assumer de prendre un titre comme ça dans ces conditions-là. Voilà, c'était Canal Football Classique, le podcast de Canal+, consacré aux grands événements qui ont écrit l'histoire du foot. Pour découvrir les prochains épisodes, revivre de grandes émotions du ballon rond, rendez-vous sur MyCanal et toutes les applications de podcast. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.